Merci Seigneur. Merci Seigneur de ta présence parmi nous. Merci Seigneur de ta douce présence. À toi soit toute la gloire et l'honneur. Reçois ces louanges, Seigneur, qui montent dans nos cœurs. Merci, Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir juste avant de passer au temps de la parole. Comme j'ai pris l'habitude, je passe les salutations qui viennent de l'Amérique centrale. Le frère Harley a eu l'opportunité cette fois-ci d'aller au Nicaragua et ils sont bien contents d'avoir eu cette visite, surtout après que le pasteur a été opéré. Donc, ils remercient l'Assemblée pour les prières, pour les soutiens qu'ils ont eus pendant tout ce temps. Et ils sont contents et il nous dit qu'il y a des pasteurs qui regrettent que même s'ils avaient commencé à faire des assemblées en espagnol et ouvert les églises partout, qu'ils regrettent les traductions. Parce qu'ils pouvaient en soi recevoir aussi le même enseignement que l'on reçoit ici, et ça les enrichissait. Donc je passe quand même le message, sachez qu'on était écoutés pendant ce temps-là. Donc ne pensez pas que ces efforts-là qui ont été faits par l'Assemblée ici de Montréal d'avoir un double temps, ont été vains. Au contraire, ils ont été grandement appréciés. Donc, je passe le message de remerciement de leur part et tout. Donc, soyons avec eux dans la même allégresse que Dieu nous a permis d'être pour tout ce temps-là. Et ils ont hâte de pouvoir partager encore une fois avec nous, soit par nous des visites, soit par eux des visites. Donc, je fais le petit message que je me suis promis que j'allais faire le plus souvent possible, qu'on regarde du côté gauche ici, à ma gauche, et qu'on regarde le 50, parce que c'est un 50 qui a une signification. On veut pouvoir aller chercher les frères et les sœurs pour qu'ils viennent ici nous visiter, nous donner des rapports sur les champs missionnaires. Et pour cela, on est juste en attente de ce que Dieu nous dira. Mais pendant qu'on est en attente, on peut se préparer. Donc, c'est là pour ça aussi. Donc, vous voyez où est-ce qu'on en est rendu. Ceux qui étaient là pour l'Assemblée financière ont pu voir le rapport financier ce dimanche passé et savoir où est-ce qu'on en est rendu. Donc, on est entre 34 et 36 000 en ce moment qu'on a reçu déjà concernant le 50e. Mais il manque encore un peu. Donc, on vous encourage à penser à cela et à que Dieu ouvre vos cœurs pour pouvoir contribuer à cela. Amen. Permettez-moi, je vais prendre une gorgée. Toutes les journées avec des masques, ça finit par assécher la gorge. Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, on va se mettre debout pour lire les premiers versets. Je vous promets que je ne vous ferai pas tout lire debout, ce qu'on a à lire, mais on va se mettre debout pour lire ces premiers versets-là. Et on va prier aussi pour que Dieu puisse bénir ce temps qu'il nous accorde d'entendre sa parole. Père Céleste, on est devant toi, Seigneur, reconnaissant de ta grâce. Te remercions, Seigneur, pour ces privilèges que tu nous accordes. Pendant que dans bien des endroits, ce privilège que l'on a de pouvoir nous réunir dans un lieu physique, en paix, avec toute la liberté, malgré ce port de masque qui demeure. On doit reconnaître que c'est peu de choses à côté de ce que d'autres ont à vivre pour aller dans une assemblée. On doit reconnaître, Seigneur, que ta grâce est généreuse envers nous. Elle est merveilleuse envers nous. Comment pas te remercier, Seigneur, que tu nous accordes ce privilège d'être dans ta maison pour venir entendre parler de toi. Donc, aussi ceux qui sont à la maison, Seigneur, bénis-les, qu'ils reçoivent aussi tout ceci, Seigneur, parce que tu connais les cœurs, Seigneur, et tu sais pourquoi ils n'ont pu venir dans ce lieu. Bénis-les tout autant, Seigneur, partout où ils se trouvent, parce que toi, Tu n'as pas de limite en termes d'espace ni de temps, Seigneur. Œuvre, Seigneur, dans leur cœur, même si c'est en rediffusion. Œuvre dans le cœur des gens avec ce que tu vas nous accorder en cette soirée. En ton précieux nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, on va prendre Galates au chapitre 1, le verset 13 à la fin du chapitre, et même on va aller jusqu'au chapitre 2, les deux premiers versets. Permettez. Vous savez pourquoi est-ce que j'imprime les choses? Par nervosité. On ne peut jamais s'habituer à apporter la parole de Dieu, c'est une responsabilité trop grande. Donc, des fois, je lis dans ma Bible et je trouve que, malgré que je prends des Bibles de plus en plus, avec des caractères de plus en plus grands, on dirait que c'est jamais assez grand. Donc, je pense que certains d'entre vous comprendront très bien ce que je dis. Donc, Galates, chapitre 1, verset 13, nous dit « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de relever en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie, de la Sicilie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, ils avaient entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais et je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Vous pouvez vous asseoir. Je vous le dis, il va y avoir un autre passage qui est long, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on va lire ces passages-là. Vous savez, ce que nous on voit et ce que Dieu voit sont vraiment deux choses différentes. Lorsqu'on constate ce que Dieu peut voir de nous, on se rend compte que ça peut peut-être nous faire peur. Très souvent, on prend l'exemple de Gédéon, lorsque Dieu lui dit « Vaillant héros ». Ou on prend le cas de David, pour le moindre roi, mais il est parmi les brebis, parce que personne ne le voit. Donc, pour nous, il y a un phénomène qui s'appelle le temps. Mais ce phénomène-là ne s'applique pas à Dieu. Lui, le temps, c'est juste un intermède parmi l'éternité. Lui, il voit exactement l'accomplissement de ce qu'il veut en nous. Ce qui nous amène à dire, ben, moi, je ne peux pas voir ça comme ça. Hein. Et très souvent, l'enjeu qu'on a, c'est que notre façon de voir ressemble beaucoup plus à celle, je dirais, vous vous souvenez des films où est-ce qu'on pouvait étirer le rouleau et voir les plein de petites images? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Donc, c'était une photo à la fois, hein? Aujourd'hui, avec nos films électroniques directement sur le cellulaire, on n'a plus ce concept-là de découpage d'image en image. On a perdu cette notion-là dans la façon de faire, si ce n'est dans certains types de films qui font encore photo après photo et font des montages pour donner l'illusion de mouvement et faire, c'est un style. Aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qui est nécessaire, Parce qu'aujourd'hui, avec l'électronique, on peut faire la même chose, le même mouvement, sans avoir à découper ça en images. Mais par contre, nous, les êtres humains, l'image que l'on voit aujourd'hui, ben, c'est seulement celle d'aujourd'hui. Le reste, c'est des souvenirs. Hein? Et les futurs, je ne les ai pas encore vus. Vous êtes d'accord que je suis dans un moment particulier? Disons que le clin d'œil que je fais en ce moment est une photo de ce qui se passe. Mais pour Dieu, il ne nous voit pas ainsi. Et Dieu merci. Parce que s'il nous verrait réellement dans les circonstances qu'on se trouve parfois, aïe, on n'est pas toujours dans la meilleure de nos circonstances, n'est-ce pas? Je vous garantis, le pasteur Florent est là pour le dire, ce qui semble être une caractéristique de moi aujourd'hui, ce n'était pas la caractéristique que le pasteur Florent a connue de moi lorsque j'étais jeune. Les gens me trouvent patient aujourd'hui. Et pourtant, mes enfants ne me trouvent pas si patient que ça. Hein? Et pourtant, il doit avoir eu un changement en moi à un moment donné qui a amené une progression de ce côté-là. Dieu merci, parce que je manquais énormément de patience. Donc concrètement, on a différentes étapes de nos vies dans lesquelles on peut se trouver. Et on va voir le cas de Paul. On ne va pas prendre toute sa vie. On va prendre ce qu'on a lu pour aller chercher quelques informations sur sa vie. Et on va prendre lorsque Dieu vient le chercher. Okay? Oui, c'est un chapitre, j'en conviens, on va le lire, mais on va sortir des éléments de ce côté-là. Donc, si on voit les premiers moments de la vie de Paul que mentionne ici, on n'a pas beaucoup d'informations sur son enfance. Hein? Et pourtant, ici, on a une petite information. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a été mis à part dès le sein de sa mère. En fait, on a connaissance qu'il mentionne maman, mais on n'a pas connaissance qu'il mentionne papa. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Par contre, on sait, si on lit dans plusieurs endroits dans la Bible, on se rend compte qu'il a été élevé dans le judaïsme, enseigné, instruit au pied de Gamaliel, on a de l'information que pour que cela arrive, soit c'était un peu comme Samuel et qu'il était consacré, soit il devait être un de ses enfants un peu plus doué que les autres et qu'on amenait là, parce que il avait peut-être des aptitudes ou parce qu'il était consacré, l'une ou l'autre. Ça ne change rien. On sait qu'il a été instruit. Et ça fait partie des photos qui peuvent survenir dans sa vie. Et pourtant, il dit « mis à part dès le sein de ma mère ». Mais on va voir que Paul, excusez, à cette époque-là, Saul, parce qu'en effet, à cette époque-là, il s'appelait Saul, Je vais imaginer des choses, peut-être que ce n'est pas tout à fait juste, mais je peux m'imaginer que Paul devait avoir tout un caractère, étant enfant. Parce que d'habitude, les enfants qui ont un petit peu plus d'habilité ont des traits de caractère, n'est-ce pas? Ne serait-ce que parce qu'ils s'en rendent compte qu'ils sont un peu plus avancés que les autres. Et ça amène des traits de caractère. Vous me direz, pas tous, en effet, mais beaucoup d'enfants qui ont une certaine, disons, douance, s'en rendent compte, parce que leurs amis autour, c'est pas pareil. Et certains, peut-être, ont une certaine humilité, d'autres, peut-être pas. Puis on peut remarquer avec le tempérament de Saul, qu'il y a de fortes chances qu'il faisait partie de ceux qui avaient un caractère, disons, un peu prédominant. Okay? On sait qu'il a été donc élevé à ce moment-là. On va lire ensuite un autre moment où est-ce qu'on sait que Paul, que Saul apparaît dans la Bible. On va prendre dans Actes au chapitre 7 et le verset 58. La parole nous dit, il parle à ce moment-là d'Étienne, « Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. » Il me semble qu'à ce moment-là, je peux dire qu'il était au moins un suiveux. Il suivait des gens. Et comme il était plus jeune, ils l'ont placé à un endroit pour garder des choses, les vêtements, pour que les autres puissent faire ce qu'ils avaient à faire. Il suivait qui? Il suivait des gens qui allaient lapider quelqu'un. Et il était, on le dit là, il était jeune, c'est un jeune homme là. C'était pas un adulte à ce moment-là. Ensuite de ça, si on va au chapitre 8 et au verset 1 et 2, on peut lire, « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. » Attendez, c'est un jeune homme là. Il avait approuvé le meurtre. On ne parle même plus de lapidation, on parle d'un meurtre. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Est-ce qu'on peut afficher le verset 2, s'il vous plaît? Des hommes purs ensevelirent Étienne et pleurèrent et le pleurèrent à grand bruit. Verset 3. Saul de son côté, okay, il est encore un jeune homme là, ravageait l'Église, pénétrait les maisons et il en arrachait les hommes et les femmes, les saisissait et les jetait en prison. On parle du jeune homme là. Quand dans Galates, il dit zèle excessif, vous comprenez le poids de ces mots-là à ce moment-là. Bien sûr, si je regarde quelqu'un et je prends une photo, au moment où il pénètre dans une maison, il arrache quelqu'un et le met en prison, sérieusement, est-ce que ma pensée serait, quand je prends cette photo-là, quel homme de Dieu? Pas tout à fait, hein? Si j'avais pris la photo du jeune homme ou du jeune enfant qui était meilleur que les autres dans ce qu'il apprenait, avec, je m'imagine, en prenant la photo, un petit sourire en coin, je suis meilleur que les autres, parce que ça semblait être un trait de caractère, il le reconnaissait, il savait. Je ne penserais pas à ce que cet enfant-là va devenir. Hein. Je ne pourrais pas me l'imaginer. J'aurais certainement des pensées complètement autres de cet enfant-là, de ce jeune homme-là, que ce qu'il va devenir plus tard. Ça, c'est le regard humain de la photo instantanée au moment où ça se produit. Dieu merci que ces photos-là, et je ne parle pas de celles de Saul, mais de mes photos à moi. Aïe! Dieu merci que Dieu, ce n'est pas ainsi qu'il me voit. Parce que si c'était ainsi qu'il me verrait, je vous garantis que je ne serais pas ici, devant vous. Le fait de savoir que c'est par grâce que je suis là, fais en sorte que je reconnais, Seigneur, tous ces moments-là, tous les gens qui m'ont connu à ces époques-là de ma vie, pouvaient-ils penser où est-ce que je serais aujourd'hui? Maintenant, je le retourne dans un autre sens. Imaginez toutes les photos des gens pour qui vous priez. Et que vous voyez en ce moment qu'ils ne sont pas dans leur meilleur. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu les voit. On va prendre l'autre portion, et pardonnez-moi si elle est longue, cette lecture-là. C'est dans Actes chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas afin qu'il se trouvât des partisans de la nouvelle doctrine. Que s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Avant, il faisait sans les lettres. Hein. Maintenant, il se sentait déjà pas mal plus pour aller demander de se faire appuyer, légitimer dans ses gestes. Imaginez-la, imaginez la scène. Imaginez si vous étiez là et vous voyez cette personne-là en train de demander ça. Je vous garantis que ce ne serait pas une image de celui qui va devenir plus tard. C'est plutôt une crainte qui s'emparerait de nous si on avait pris cette photo-là, de cette personne-là. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, et il entendait bien la voix, mais il ne voyait personne. Là, là, c'est le jeune homme qui a des lettres, qui a un pouvoir, qui a des gens qui le suivent, là. C'est devenu un chef, là. Lorsque tu as des gens qui te suivent, et à qui tu peux donner des ordres, tu as grimpé un certain échelon. Si on te prend la photo à ce moment-là, et si on te prend la photo lorsque Dieu te parle, oh, quelque chose s'est passé. Les gens qui sont autour de lui, là, ils entendent la voix, mais ils ne voient rien. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisait à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Un changement de photo, hein? Là, c'est un homme aveugle. Que l'on doit aider. Hein? Un aveugle qui est né aveugle apprend à vivre avec la cécité pendant un certain temps. Mais celui qui devient aveugle instantané, à un certain âge, n'a aucune des manières de savoir comment bouger, comment faire les choses, comment se nourrir, comment rien faire. Ce n'est plus la même photo du sol. Hein? Dépendant à quel moment de la vie de quelqu'un vous prenez une photo, ça peut être complètement différent ce que vous pouvez voir et ce que vous pouvez penser de cette personne-là. Quelqu'un qui passait et qui, je ne sais pas s'il a entendu ou il n'a pas entendu, voit la scène qui se passe, quelqu'un qui parle, mais il n'y a personne, et ou je ne sais pas s'il entendait aussi la voix, voit que les autres viennent l'aider et tout, ne comprend pas ce qui se passe. C'est une scène qui peut sembler complètement surréaliste. On ne sait même pas quoi penser de cette photo-là. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue que l'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Dans ce temps-là, il n'y avait pas de photo, hein? Mais les messages se passaient, hein? On était au courant de qui était Saul, hein? Et on savait ce qu'il s'était à faire aussi. Puis on savait ce qu'il avait fait à Jérusalem. Pour que ce soit digne de mention, qu'on transfère cette information d'une ville à une autre, ça devait être marquant. Cet homme devait être vraiment craint. Et il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom, devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Voilà comment Dieu voyait Saul. Pas la même photo, hein? Du tout. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvras la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ?» Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Donc, ils étaient déjà au courant qu'ils venaient pour faire ça. Hein? Donc, clairement, on voit un Saul qui est encore au stade de, comment est-ce que je pourrais dire, de l'instantané. Quelque chose se produit, il agit. Ça n'a pas pris longtemps hein, de passer de celui qui garde les vêtements à aller demander des lettres. Hein. Ça n'a pas été long, ça. C'est un homme impétueux. C'est un homme qui est fougueux. C'est un jeune homme qui avait plein d'énergie. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Quand on est fougueux, on s'attire pas mal de choses, hein? Les photos de cet homme, si on les prend vraiment isolées, peuvent vraiment laisser penser plein de choses complètement différentes. Il y a des traits de caractère qui sont là, qui ne changent pas dans un instant de photo. Hein. Il était zélé pour une chose, il est encore zélé pour la prochaine. Hein. C'est le même caractère. Ça prend du temps, des fois, pour que Dieu nous transforme. D'amener emprisonné, là, il se fait persécuter lui-même. C'est vraiment rapide, les changements avec Saul. C'est pas mineur. Hein? Et comme on dit, il ne va pas avec le dos de la cuillère. C'est à pleine cuillère qu'il fait les choses. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Celui qui était chef, maintenant, se fait cacher. Moi, je me l'imagine bien accroché, là, et en train de se faire descendre dans la muraille. J'imagine qu'il y a plein de sensations et d'émotions qui ont dû passer par sa tête. Si je prends la photo à ce moment-là de quelqu'un qui descend dans une corbeille, ça a l'air plus d'un brillant qu'autre chose. Hein? Ça n'a pas l'air d'un homme de Dieu, là, je veux dire. Ça a l'air quelqu'un qui fuit, non? Lorsqu'on regarde le cheminement de nos frères et de nos sœurs et qu'on porte ce regard qui est bien humain, de l'instantané du moment, c'est dangereux, hein? Comment est-ce qu'on peut percevoir? Comment est-ce qu'on peut tirer des conclusions hâtives de quelque chose? Lorsqu'ils se rendirent à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient. Vous imaginez pourquoi, hein? Ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Saul, avait vu le Seigneur et qu'il lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Et il leur parlait aussi. Et son caractère est encore là. Hein? Et il faisait quoi? Et il disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. C'était pas encore entré. Les frères l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. D'où il venait d'ailleurs. C'est encore un jeune homme, hein? C'est encore un jeune homme. Impétueux. Oui, Dieu lui a parlé. Oui, il a une grande connaissance qui bouillonne en lui. Mais il semble être pas mal gauche dans son approche. Lorsqu'on voit nos frères et sœurs, nos amis, nos membres de famille, qui passent par toutes sortes de moments, et on prend cette photo bien humaine, il faut savoir que Dieu ne voit pas que ce moment. Et Dieu merci qu'il ne voit pas que ce moment. Parce que beaucoup des photos d'entre nous ne seraient pas belles à voir. Dieu nous voit avec des yeux remplis d'amour et de compassion. Sachant pourquoi il nous a mis sur cette terre, quelle est l'œuvre à laquelle il nous appelle à faire? Quel est le rôle que l'on a à jouer? C'est comme ça qu'il nous voit. Quand la Bible nous dit qu'on doit voir au travers de ses yeux, c'est de ça qu'il parle. Maintenant, si on reprend Galates et on prend le premier verset de ce chapitre-là, c'est pas mal d'années plus tard. Là, on ne dit plus Saul, on dit Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Vous imaginez le nombre de photos entre les deux? Pas mal de photos. Vous pouvez lire ensuite dans Galates tout ce qu'il leur dit aux gens de la Galatie. Et il peut leur dire, attention là, l'évangile qui vous a été prêché là, ne l'oubliez pas. Si quelqu'un d'autre vient vous dire une autre chose, ah là il commence à parler avec une certaine assurance, mais avec une certaine sagesse aussi. On ne lira pas tous les autres choses, mais on voit que ce n'est plus le même Paul. Ce n'est plus la même personne. Il y a eu une transformation. Dieu voyait Paul comme un instrument choisi par lui pour aller à des endroits où est-ce que d'autres ne pouvaient pas aller. Parler à des gens que d'autres n'auraient pas pu atteindre. Combien d'entre nous avons la capacité d'aller nous présenter devant des rois, des ministres, des premiers ministres? Sérieusement, moi, je n'ai pas ça. C'est comme ça que Dieu le voyait. Mais en même temps, il avertit, hein? Il y a une souffrance qui vient avec tout ça. Ce qui m'a frappé, moi, c'est les premiers mots que Dieu adresse à Saul sont des mots de reproche. Mettez-vous à penser ce jeune homme, aussi zélé qu'il était prêt à littéralement devenir un meurtrier à cause de ce zèle-là, se faire reprocher par celui qu'il croit défendre. C'est moi que tu persécutes. C'est moi qui te parle. La transformation ne s'est pas faite en une journée. Mais il y a quelque chose qui a débuté. Il y a eu des essais un peu gauches de sa part à cause de toute l'instruction qu'il avait. Et parfois, nous avons dans nos assemblées des jeunes, des enfants, des gens qui viennent à Christ, que Dieu touche, et qui ont des approches gauches au début. C'est vrai. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu les voit. Dieu les voit avec tout ce qu'ils vont accomplir pour lui. Et c'est comme ça que nous devons les voir aussi. Pas avec les erreurs qu'ils vont commettre, parce qu'ils sont les mêmes êtres humains que nous. Hein? Et je vous l'ai dit, je ne suis pas fier de beaucoup des photos que Dieu a. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa compassion, il nous voit autrement. Il nous voit comme l'instrument choisi pour accomplir quelque chose. La personne à laquelle tu vas parler, si tu n'es pas là à ce moment-là pour lui parler, peut-être personne ne va lui parler. La personne pour qui tu vas prier, au moment où est-ce que tu vas le faire, si personne n'intercède pour cette personne-là à ce moment-là, c'est terrible, hein? Oui, mais Seigneur, je suis plein de fautes, plein d'erreurs, plein de... C'est pas comme ça que Dieu nous voit. Il nous voit vraiment comme des gens accomplis. Pas au moment où est-ce que c'est, mais dans son regard divin, de où est-ce qu'il voit déjà où est-ce qu'on va atteindre. C'est comme ça qu'il nous voit. Et si tu vois qu'il est contre l'Évangile complètement, qu'il ne veut rien savoir, ce n'est pas comme ça que Dieu le voit. Ce n'est qu'une photo dans le temps. Comment Dieu le voit? C'est comme l'individu racheté, sauvé, agissant pleinement de ce que Dieu va faire au travers de cette personne-là. C'est comme ça, pas autrement. Vous imaginez le nombre de fois où est-ce que je dois demander pardon, Seigneur, je ne dois pas voir comme ça. Quand on réalise ça, il faut le reconnaître. Hein? Oh, d'accord, Seigneur. C'est pas comme ça que je dois voir mon frère, c'est pas comme ça que je dois voir ça. Parce que ce ne sont pas comme ça que tes yeux voient. Pourquoi? Simplement parce que aussi tu uses de cette même grâce et de ce même pardon et de cette même compassion envers moi. Si une chose devait demeurer en vous, de ce qui a été parlé ce soir, c'est vraiment cela. N'hésitez pas à dire, Seigneur, je ne comprends pas, je ne vois pas, comme toi tu vois, ouvre mes yeux. Laisse tomber peut-être mes écailles à moi aussi. Je suis peut-être aveugle en ce moment. Et je ne comprends rien. J'ai besoin d'aide pour voir comment toi tu veux que je voie. Et rappelez-vous, ce n'est pas juste une fois. Hein? Combien de ces petites photos-là ça prenait pour faire un film? Ça en prend beaucoup, hein? Si je me souviens bien, il y avait une norme qui était 60 photos par seconde qui donnait le rythme pour que ce soit à l'œil suffisamment rapide pour pas qu'on puisse voir le saccadé d'un mouvement. Ça en fait beaucoup de photos. Hein. Ouf! Dieu merci qu'il prend toutes ces preuves-là et qu'il les amène à la croix et qu'il nous pardonne de tout ça. Ils ont du même pardon lorsqu'on prie pour les gens qui sont autour de nous. On va prier. Père Céleste, nous sommes, Seigneur, devant toi. Oui, nous sommes des êtres humains imparfaits. Mais par ta grâce, tu nous vois comme des rachetés, comme les enfants choisis. Permets, Seigneur, que l'on puisse voir avec tes yeux et que lorsqu'on prie, on puisse proclamer ces choses-là et les annoncer par la foi. Seigneur, tu as promis à telle personne, telle chose, aujourd'hui ça ne paraît pas. Mais tu n'es pas un menteur. Ça va s'accomplir. Aujourd'hui, l'image peut-être n'est pas belle. Mais ce n'est qu'une photo dans le temps. Agis, Seigneur, dans nos vies afin qu'on puisse réaliser quel grand salut tu nous accordes. Que l'on puisse user de cette patience aussi envers ceux qui en ce moment, peut-être, ne passent pas par leur meilleur moment. Mets dans nos cœurs, Seigneur, de voir comme toi tu les vois. Quand tu dis vaillant héros, et que pendant plusieurs chapitres dans ta parole, on voit que cet homme est un peureux, et pourtant toi tu le vois comme un vaillant héros. Et tu accordes des délivrances à Israël au travers de cet homme que tu vois comme un vaillant héros. Et pourtant, c'est un homme qui se cache, qui a besoin de quelqu'un d'autre pour l'accompagner, parce qu'il a peur. Il fait les choses de nuit parce qu'il a peur. Mais ce n'est pas comme ça que toi, tu le voyais. Tu ne voyais pas le petit berger caché seulement. Tu voyais le grand roi qu'il allait devenir. Ouvre notre entendement, Seigneur, pour que l'on puisse avoir cette foi que c'est comme ça que tu vois ceux qui sont autour de nous et nous-mêmes. Père, agis dans nos cœurs pour que l'on fasse réellement des prières qui ont une efficacité. Des prières de foi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous as permis de recevoir en cette soirée. Et en toute chose, Seigneur, nous avons prié en ton nom, Jésus, pour ta gloire et ton honneur. Amen. Soyez bénis.